Studio Tamani, voici les informations en français.
Heureuse de vous avoir nombreux à l'écoute des programmes de Studio Tamani. Bonsoir et bienvenue à ce journal. À la une, le mot d'ordre de grève de 72 heures du SINABEF est entré en vigueur ce matin dans le pays. Plusieurs banques et établissements financiers et stations étaient fermés ce jeudi à Bamako. Le FMI a accepté le décaissement du crédit demandé par le Mali. Le montant s'élevant à environ 74 milliards de francs CFA vise à assurer la stabilité économique et énergétique du pays. Suite aux tensions entre le Mali et l'Algérie, les opérateurs économiques se sont engagés à approvisionner les régions du Nord en vivres, une initiative saluée par les populations. Le point complet de ces titres, c'est dans un instant avec Juliette Koulibaly-Gaïn-Kanté assure la technique. Le syndicat national des banques et établissements financiers a entamé ce matin la première phase de sa grève de 72 heures sur l'étendue du territoire. Selon la section syndicale, les négociations avec les autorités ont dernièrement échoué. Elle réclame la totale satisfaction de ses 15 points de revendication. Parmi celles-ci, la libération de leurs collègues arrêtés. Notre reporter Moussa Agmahara nous fait le point après son constat en ville.
À notre passage, ce jeudi matin à la CI 2000, un quartier d'affaires de Bamako, c'est le calme devant la majorité des banques qui sont fermées. Ici, l'impact de la grève du syndicat national des banques et établissements financiers est bien visible. Pas de service minimum car même les guichets automatiques sont fermés. Par contre, c'est la grande affluence devant quelques rares banques comme le siège de la Banque du Développement du Mali, BDM, au quartier du Fleuve. Tous les guichets sont ouverts et les opérations s'effectuent normalement. Même constat du côté de la BOA, Bank of Africa, à la CI 2000. Cet arrêt de travail est également constaté au niveau de plusieurs stations de vente d'essence comme Total, Oryx et Shell, qui sont presque désertes, surtout du côté de la rive gauche de Bamako. Quelques services des assurances étaient aussi fermés, même si d'autres étaient opérationnels. Il faut rappeler que la Confédération syndicale des travailleurs du Mali s'est désolidarisée du mouvement de grève dont la première phase va durer 72 heures.
Pour Guindo Ogote-Beloum, secrétaire administratif du bureau exécutif du syndicat national des banques et établissements financiers SINABEF, cette grève n'a aucun lien avec une augmentation salariale ou des primes. Elle est faite dans le souci de préserver leurs droits, a-t-il dit. Il est joint au téléphone par Lalaïcha Walet-Infa.
Cette grève suit à une décision du bureau exécutif qui tourne autour de 15 points. Parmi tous ces points, c'est des cas de décision illégale que nous dénonçons. C'est des cas d'abus, c'est des cas d'atteinte à la liberté syndicale. Il faut noter qu'il n'y a pas de points qui relèvent d'augmentation salariale ou de demande de primes ou autres avantages. Nous voulons juste que nos camarades soient dans leur droit le plus absolu.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Le Fonds monétaire international FMI a approuvé ce mercredi 16 avril un décaissement immédiat de 129 millions de dollars américains en faveur du Mali, soit 74 milliards de francs CFA. Cette somme vise, selon le donateur, à renforcer la stabilité macroéconomique, à renforcer la résilience et à améliorer la gouvernance, en particulier celle de la compagnie d'électricité énergie du Mali. Les détails avec Imrana Kiloumaïga.
Le document précise que ce fonds a été décaissé à la demande du Mali au titre du guichet choc exogène de la facilité de crédit rapide FCR. Le FMI souligne que l'économie malienne est confrontée à des chocs climatiques dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire et des restrictions financières. Sur son site, il est indiqué que ce financement d'urgence aidera à répondre aux besoins urgents de la balance des paiements engendrés par les inondations. Il vise aussi à améliorer la gouvernance en servant de point d'ancrage pour les priorités macroéconomiques du gouvernement. Ce fonds estimé à 74 milliards de francs CFA permettra également d'améliorer l'efficience des dépenses, par exemple en remédiant à la vulnérabilité des entreprises publiques. À cela s'ajoute le renforcement de la compagnie d'électricité Énergie du Mali, EDM, tout en préservant l'investissement public et les ménages vulnérables. Au même moment, le directeur général du groupe de la Banque mondiale séjourne au Mali depuis hier mercredi. Au cours de sa visite, Wenken Yang aura un dialogue de haut niveau avec les autorités et échangera également avec le secteur privé.
Le gouvernement de transition a présenté ce jeudi 17 avril 2025 deux projets aux partenaires techniques et financiers. Il s'agit de Malikouragne Tassira Kabensan 2063 MA et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable SNED 2024-2033. Le coût global de financement est estimé à plus de 61 000 milliards de francs CFA. La rencontre était présidée par le général de division Abdoulaye Maïga, premier ministre et chef de gouvernement. Aïssata Diarra a suivi la rencontre pour nous.
L'objectif de cette rencontre est d'échanger avec les partenaires techniques et financiers afin de s'assurer de leur soutien. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, ces projets toucheront tous les aspects de la société et de l'économie malienne. Aloussey Nissanou indique qu'il s'agit notamment de l'énergie, de l'agriculture et des mines.
Parmi eux, le projet Farafina Djiguiné, nourrir le Mali et la sous-région, ambitionne de faire du Mali un leader agricole en Afrique de l'Ouest. Le projet Yélekoua, éclairer le Mali, transformera notre secteur énergétique pour garantir l'accès universel à l'électricité et soutenir notre industrialisation. Le projet Kankou Moussa Séguinal mettra en valeur nos ressources minières, notamment l'or et d'autres ressources du sous-sol.
Le représentant des partenaires techniques et financiers a réaffirmé leur soutien à cette initiative du gouvernement malien, Kassim Diagne.
Les partenaires techniques et financiers sont disposés à accompagner le pays dans cette démarche. Nous proposons, à l'issue de cette cérémonie, d'envisager une rencontre dédiée entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers pour définir ensemble les meilleures modalités de renforcement de ce dialogue stratégique.
Ces documents marquent une étape importante dans le processus de construction du Mali nouveau, a indiqué le général de division Abdoulaye Maïga, premier ministre, chef du gouvernement. Pour lui, ces processus concrétisent les attentes des Maliens.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Place à présent à notre dossier de la semaine. Les opérateurs économiques du Mali s'engagent à approvisionner les régions du Nord en denrées alimentaires. L'assurance a été donnée ce lundi 14 avril 2025, lors d'une rencontre avec le ministre de l'Industrie et du Commerce. Elle intervient dans un contexte de crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie, d'où sont approvisionnées certaines régions du Nord. Les opérateurs économiques demandent en revanche au gouvernement la sécurisation des axes routiers reliant les régions du Nord à celles du Centre. Les populations des régions du Nord saluent la nouvelle et souhaitent une pérennité de ces actions. Moussa Mali Sissoko nous donne plus de détails.
Le ministre de l'Industrie et du Commerce a expliqué que l'objectif de cette démarche est d'anticiper sur les conséquences de la crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Moussa Alassane Diallo a annoncé la mise en place des mécanismes pour suivre l'approvisionnement correct des régions du Nord.
La réunion de ce matin va nous permettre de changer sur le schéma opérationnel que nous devrons mettre en place en termes d'organisation, qui va nous permettre d'assurer l'approvisionnement correct de Tombouctou, Gao, Menaka et Kidal, et de mettre en place aussi un mécanisme conjoint secteur privé pour assurer le suivi de toutes les actions qui vont être décidées et mises en place de façon à assurer la sécurité alimentaire, l'approvisionnement correct de ces quatre régions.
Le président de la Chambre du commerce et de l'industrie de Tombouctou salue cette initiative. El Hadji Firoun prône également la lutte contre la contrebande et la sécurisation des marchandises sur les axes routiers.
Il suffit seulement que nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous mettons ensemble pour qu'on puisse créer notre propre réseau à partir de Mouti pour que nos forces de défense de sécurité puissent sécuriser les convois jusqu'à la ville de Tombouctou. Avoir un bon barème de taxation, ça va permettre vraiment de décourager ceux qui sont en train de faire cette contrebande parce que c'est une concurrence déloyale.
Les habitants de Gao accueillent cette nouvelle avec ferveur et espoir et demandent aux autorités de pérenniser l'approvisionnement des régions du Nord.
Il faut que le Mali soit indépendant. Montre aux gens qu'on peut vivre sans eux.
C'est une très bonne initiative.
Ça a bien reçu. Le Mali a des grands opérateurs économiques.
Pour un suivi. Parce que sans le suivi, ça serait zéro.
La ville de Niafunke, région de Tombouctou, est généralement approvisionnée par les pays voisins. Ces commerçants disent s'aligner désormais derrière la décision des autorités de la transition.
Nous avons quelques difficultés ces temps-ci car la plupart de nos produits proviennent de l'Algérie et de la Mauritanie.
Donc si les produits de l'Algérie ne viennent pas, nous allons les approvisionner à partir de Mopti ou de Bamako.
Rappelons que l'accès aux produits de première nécessité est limité par les habitants de certaines régions du Septentrion à cause des prix élevés et l'insécurité. Certaines s'approvisionnent des pays limitrophes comme l'Algérie et la Mauritanie.
C'est ce dossier de Moussa Malé Sissoko qui referme ce journal présenté par Juliette Koulibaly avec la complicité technique de Gagny Kanté. Auditeurs et auditrices, faites-nous parvenir vos plaintes, avis ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. Nos productions sont également disponibles sur le service Kounafoni. Pour l'écoute, il suffit d'appeler au 37 321, mais vous devrez avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Vous pouvez suivre après ce journal le grand dialogue délocalisé à Kenyeba sur le thème « Kenyeba, une cité orifère à exploitation risquée », un débat en Bambara présenté par Mariam Maïga. Un arrêté a été adopté le 5 juillet 2024 pour le travail des enfants par le ministère du Travail. La note fait la catégorisation des travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 14 ans. Elle fixe les conditions dans lesquelles les enfants doivent désormais travailler. Cette nouvelle mesure devrait contribuer à l'épanouissement des enfants et promouvoir leur scolarisation. Les organismes pour la défense des enfants se réjouissent d'une telle décision, mais restent sceptique quant à sa mise en œuvre. Plus de précisions dans ce magazine Tous les enfants du Mali, présenté par Lale Tangara.
Ibrahim Traoré est un élève de la 5e année. Cet enfant de 11 ans salue l'adoption de cet arrêté. Il vient de Yélimani, dans la région des Kayi, une localité où une des activités principales est l'orpaillage. Selon lui, cela permettra d'alléger le travail des enfants et aussi qu'ils profiteront de leurs études.
Cette décision du gouvernement est vraiment salutaire. Cela favorise l'éducation de nous les enfants. Sinon, faire travailler un enfant peut impacter ses études. Pour moi, les enfants doivent faire des travaux domestiques. Il y a des parents qui mettent leurs enfants dans des activités, or ils n'ont pas l'âge de l'exercer. Aussi, s'il faut travailler jusqu'au soir, la personne sera épuisée et se réveiller le lendemain matin sera difficile pour aller à l'école.
Le Mali s'est engagé en ratifiant des conventions internationales numéro 138 et 182 pour contribuer aux efforts mondiaux de protection des droits des enfants. Ces affirmations sont du directeur national du travail. Ben Abdoulaye Ibrahim Taha ajoute que l'adoption de cette liste des travaux légers autorisés aux enfants de 13 et 14 ans constitue une avancée notoire.
Contribuer aux efforts mondiaux de protection des droits des enfants, tout en garantissant qu'ils ne soient exposés à des travaux dangereux, préjudiciables à leur développement. C'est dans ce contexte qu'une liste des travaux légers que les enfants peuvent effectuer sous certaines conditions a été initiée, afin de garantir leur santé, leur sécurité et leur développement, ainsi que leur accès à l'éducation.
Le directeur de la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants abonde dans le même sens. Il explique que cette liste des travaux légers vient compléter la liste des travaux dangereux pour les enfants. Amadou Tcham donne d'amples explications sur le contenu de la liste.
Les travaux légers des enfants se trouvent dans toutes les branches d'activité. Il y a l'agriculture, il y a l'orpaillage. Dans toutes ces branches d'activité, il y a des tâches légères, il y a des tâches interdites. L'exemple, dans les travaux champêtres, il y a des activités qu'on peut confier à l'enfant, des activités qui ne nécessitent pas beaucoup d'énergie, les activités qui ne nécessitent pas un temps de travail élevé. Par contre, l'épandage des produits toxiques ou bien des engrais chimiques, ça c'est interdit à l'enfant.
La mise en circulation de cette liste est une action significative en faveur de la protection des droits des enfants selon le Parlement des enfants. Mais la présidente Fatoumata Dite Dikodia Moussa Kane s'est dit tout de même peu optimiste par rapport à son application.
Comment il sera appliqué? En milieu rural, beaucoup d'enfants travaillent pour aider leur famille.
si on ne sensibilise pas les parents et si on ne lutte pas contre la pauvreté, l'arrêté risque d'avoir peu d'effet. Il faut accompagner cet arrêté avec des actions sur le terrain. Car en milieu rural, les conditions sont assez difficiles. Donc, expliquer l'arrêté aux familles, surtout dans les villages et surtout dans les langues qu'elles comprennent.
Une mission déjà entamée selon le représentant Haruna Ouattara du groupe de recherche d'action et d'assistance au développement communautaire Gradecom, basé à Sikasso.
L'arrêté a bien précisé les tâches à faire dans le domaine du commerce, agriculture, élevage, même orpaillage. Et les conditions d'accès, les temps donnés qui est de 2 heures, période école, 4 heures, période non école. Et les poids que l'enfant de 13 et 14 ans doit supporter, les 10 kg. Vraiment, je crois que ça va être un atout pour bien protéger les enfants.
D'autres acteurs en faveur de la défense des droits des enfants précisent être favorables au travail des enfants, mais dans un cadre où l'enfant pourrait concilier éducation et activité.